DW, le club de l'auditeur.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette édition du club des auditeurs et internautes en compagnie d'un invité aujourd'hui avec lequel nous parlerons de la RDC. Mais avant, un grand bonjour à Henrique de Brasilia, la capitale du Brésil, à Salah Eddin de Kouriba au Maroc, à Issaka de Niamey au Niger, à Kodjo de Lomé au Togo, Ismaël de Ouagadougou au Burkina Faso et Roland de Bamako au Mali en les remerciant de leur intérêt. Et puis nos meilleurs vœux à ceux d'entre vous qui ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, à savoir Moussine de Fès au Maroc, Aliou de Kaduna au Nigeria, Véronique de Loubefou en RDC, Boubakari de Maroua au Cameroun et Déo de Lomé au Togo. Dans le club aujourd'hui, j'accueille Timothée Tchaombo Choucha.
Effectivement.
Bonjour Timothée et bienvenue dans nos studios de la radio Deutsche Welle ici à Bonn en Allemagne. C'est un plaisir de vous recevoir ici.
Merci, merci effectivement. Moi aussi c'est un plaisir, un honneur que Deutsche Welle me fait, mais un plaisir aussi de vous rencontrer personnellement. Mireille Drone qui m'a guidé dans le club des auditeurs depuis que j'avais 10-15 ans.
Justement Timothée, vous nous venez du Congo, par un détour là par la Belgique, mais vous étiez donc un fidèle auditeur en RDC.
Oui, fidèle auditeur au Sankuru, à Lodja principalement, territoire totalement enclavé, il n'y avait pas d'eau ni électricité, donc il n'y avait pas de radio nationale, il n'y avait pas de presse, donc nous suivions toujours les radios internationales par ondes courtes pour être informé du monde et personnellement, j'étais très attaché à Club des Auditeurs, mais aussi au journal Ermag Ekmam, Bisou Kondawa, Bisou, je ne sais pas là où ils sont, mais je suis très content de rencontrer.
Voilà,
très longtemps. Les années 80 et 90.
Oui, c'est ça. Et donc, quel chemin parcouru ? Parce que vous-même, Timothée, après, vous êtes devenu journaliste.
Oui, oui, parce que d'abord, la radio était une passion personnelle et c'était aussi un besoin pour toute la province du Sankuru, plus d'un million d'habitants, aucun organe de presse. Donc, je suis allé à Kinshasa, terminé mes études en journalisme et curieusement, tous mes collègues m'ont vu rentrer au village, là où il n'y a pas d'eau ni électricité, les gens ne comprenaient pas. Donc, j'ai fait un plaidoyer auprès des acteurs politiques, des hommes d'affaires qui, finalement, m'ont trouvé un émetteur, tout petit émetteur de 150 watts. J'ai organisé avec un groupe électrogène, il n'y a pas d'électricité, je vous dis tantôt. Et pour la toute première fois, j'ai installé une station radio qui émettait en FM à Lodja, Lodja territoire d'environ actuellement 500 000 habitants. Et c'était un wow.
C'était donc Radio Sankuru Liberté.
Oui, Sankuru Liberté parce qu'il n'y avait pas de liberté au Zaïre. Et puis après, avec l'AFDL, Lodja était un territoire qui a accueilli toutes les troupes rebelles et loyales. Le RCD Goma avec les troupes Rwando, Burundi, ougandaise. De l'autre côté, le gouvernement de Laurent Désiré Kabila avec l'Angola, Namibie, Zimbabwe. Et ils se sont affrontés au Sankuru, dans mon territoire de Lodja, faisant énormément de victimes, mais aussi laissant le territoire en taux de prévalence le plus élevé en VIH/SIDA. Donc, il fallait, en termes de droits de l'homme, droits des enfants, droits de la personne elle-même, qu'il y ait une radio qui parle d'un professionnel qui montre le chemin. Et c'est ce que j'avais fait un petit peu comme un missionnaire.
Donc, vous avez fait des émissions de sensibilisation à la fois sur le SIDA, sur le droit des enfants.
Et effectivement, en partenariat avec la Caritas et Chumbe, de l'évêque Nicolas Jomon, Madame Martine Berger, l'abbé Antoine Kitanja, nous avons travaillé avec l'UNICEF, tous les systèmes des Nations Unies, que ce soit en termes de la section de droits de l'homme, mais aussi la protection des enfants. Nous avons fait la relance agricole, il ne faut pas l'oublier, avec les FAO, énormément de choses. Nous avons travaillé avec les structures même de l'État, la présidence de la République, le gouvernement, les institutions centrales, pour essayer, après les différentes guerres de l'AFDL, la guerre du RCD, etc., essayer, après les dialogues entre Congolais, chercher la réconciliation, mais montrer les chemins de développement.
Mmh. Mais comment vous avez été accueilli ? Parce que ce sont des sujets assez difficiles. Aussi bien, par exemple, le sida, la sensibilisation sur cette maladie, comment se protéger, ainsi de suite, que, par exemple, le droit des enfants, ce sont des sujets très délicats.
Très délicats et très risqués d'un journaliste qui rentre là où on peut vous tuer facilement. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y a personne qui pouvait suivre la situation, donc pouvait mourir comme une poule, on dit. Mais briser aussi les tabous, parce que, par exemple, lorsqu'il faut lutter contre le VIH/SIDA, je suis intervenu plusieurs fois moi-même dans le volet de prévention. Et la prévention, il faut l'utilisation correcte et systématique du préservatif. Mais là, la population, chez nous, le préservatif, ce n'est pas vraiment leur chose. Donc, il fallait montrer l'exemple et sensibiliser, aller dans des écoles, les couches vulnérables comme la police, l'armée, les jeunes, il fallait briser. Mais aussi difficile comme mission d'un journaliste, lorsqu'il faut aller parler du droit de l'homme, de la justice, dans un milieu qui abrite des hommes en armes, qui sont sortis des groupes armés, là où vous avez des généraux, des officiers qui ont été eux-mêmes chefs rebelles, qui ont été promus, qui reviennent là-bas, et moi je dois faire ma mission.
Et des enfants soldats.
Des enfants soldats. Et donc il faut au même moment parler du droit de l'homme, mais aussi prévenir ceux qui ont commis des abus, qu'ils doivent répondre devant des cours de tribunaux, parce qu'on ne peut pas reconstruire un pays sans justice. Mmh. Et donc il fallait rendre justice à ces milliers de Congolais, je veux dire des millions qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre des différentes sortes de guerres, mais aussi les Congolais qui ne sont pas totalement informés par rapport à leurs droits, par rapport à notamment des maladies. Hein. On parle d'Ebola dans le Nord Kivu. Ouais. Et donc, c'est tout ça. Les journalistes ont un rôle très important au Congo, mais on ne lui facilite pas toujours la tâche.
Et donc, toutes les émissions étaient en français ou aussi en langue locale?
Les émissions étaient mixtes. En français, les émissions étaient en lingala, les émissions étaient aussi en otetela. N'oubliez pas que l'otetela, c'est la langue du Sankuru, la principale, parce qu'il y a d'autres petits dialectes, la langue de Lumumba, hein, comme on dit. Et donc, on mixait. Il y avait des émissions en français, par exemple, lorsque nous recevons en ondes courtes les radios internationales, c'est en français. La population est totalement intégrée. Lorsqu'il faut traduire ou prendre les informations des institutions nationales, ben, il fallait en lire en lingala parce qu'au Sankuré, à l'Odja, il n'y a pas que des ATT là, il y a d'autres communautés, Baluba, Baswahili, Bakongo, les Bandandé, et tout le monde est au Sankuru. Et effectivement, revenir aux émissions en langue locale pour faire l'émulation dans tout ça. Voilà. Oui.
Alors, on a parlé de cette radio, hélas, au passé, puisque finalement, elle a été brûlée.
Oui, elle a été brûlée deux fois, et c'est ce qui a contraint en partie mon exil. Brûlée parce que cette radio est venue briser le tabou. Il faut vous rappeler que nous sommes allés au dialogue entre les Congolais pour finalement mettre fin à la prise de pouvoir par les armes. Mais les acteurs politiques du Sankuru en particulier, ayant un bilan largement négatif, parce que depuis les années 60, ils n'ont rien fait au Sankuru, au lieu d'amener un projet de société chacun, ils ont commencé à amener la division pour dire « Tiens, celui-là, il est de la forêt, l'autre est de la savane. » Au lieu d'un programme de reconstruction, nous n'avons que des bâtiments de type colonial, des hôpitaux laissés par les Belges, des écoles laissées par les Belges. Les politiques ont plus amené la division et ma radio s'est mise au milieu du village comme une église pour dire « Votez utile, ne votez pas ceux qui amènent des insultes et ceux qui incendient des maisons. » C'est le cas et ce message-là n'était pas bien accueilli dans le milieu des états-majors des partis politiques qui n'ont trouvé de moyen que de la brûler.
Oui, parce qu'il faut dire que votre région, comme beaucoup d'autres régions d'ailleurs, dans cet immense pays qu'est la RDC, elle a d'énormes richesses, mais hélas, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, vous vouliez attirer l'attention sur aussi la corruption qui fait que
exactement,
l'argent part ailleurs.
Exactement. Le pétrole, tout ce qu'on a, les bois, nous avons la forêt, nous avons énormément de choses. Mais les acteurs politiques qui initient des projets au sein des institutions de l'État détournent carrément cet argent. Et nous étions en train de dénoncer cette corruption qui est endémique jusqu'à présent. Et les acteurs politiques qui sont cités dans ces cas n'attendent pas de cette oreille et finalement vont porter atteinte au seul organe qui est la voix des sans-voix, en fait. Cette radio-là, la radio Sankuru Liberté, a franchement donné du goût de la liberté aux jeunes Congolais, aux jeunes Sankurois qui aujourd'hui qui m'appellent grâce à toi, Timothée, je suis devenu médecin, je suis devenu journaliste, je suis devenu juriste, etc., infirmier. Et c'est une radio qui est toujours réclamée, mais là, c'est depuis qu'on l'a brûlée, moi-même en exil, elle est toujours dans les cendres.
Votre exil, vous le devez aussi à votre opposition un petit peu au président Kabila, qui pourtant avait suscité des espoirs. Vous avez parlé de la jeunesse et vous avez pensé que lui, arrivant là, il était une nouvelle génération et il pouvait apporter quelque chose de nouveau au pays. Vous avez un moment quand même travaillé avec lui.
Effectivement, j'étais chargé de mission du président Kabila entre 2006 et 2011. La seule chose qui m'a poussé à accepter, c'est parce que la demande est venue de son cabinet, parce que je représentais une force vive au Sankuru. Le problème, parce que le président Kabila a suscité l'espoir, d'abord de par son âge. Nous nous retrouvions, moi je connais Lumumba par l'histoire, je connais Mobutu un petit peu par l'histoire, je l'ai vécu, j'ai vécu Laurent Désiré Kabila, mais Joseph Kabila, c'est notre génération. Et nous avons dit, comment nous pouvons abandonner, nous devons le soutenir. Mais hélas, il a entretenu les véritables tares que nous reprochions à Mobutu et à Laurent Désiré Kabila. Des phénomènes, il les a amplifiés, d'autres, il les a créés. Et à son cabinet, moi-même, j'ai dénoncé à l'interne concerne plusieurs fois, notamment dans le financement des groupes armés, les opérations financières retour. Vous allez construire une route aujourd'hui que les Congolais vont s'endetter auprès des Chinois, une route en janvier, mais en décembre, la première pluie détruit la même route. Ça ne peut pas s'expliquer alors que les mêmes Chinois construisent ces mêmes autoroutes en Ouganda, des routes pour 20, 30, 40 ans au Rwanda, etc. Donc, moi, j'amenais ces dossiers à la table du chef de l'État. Mais au lendemain, ce sont des généraux qui me menaçaient. De toute façon, tu quitteras sans rien les cabinets du chef de l'État. Or, moi, je suis venu en politique, pas pour des moyens de vivre. C'est pour des principes que je défends, auxquels je crois et je reste inoxydable. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, je disais de façon respectueuse, mais crue au chef de l'État, que ce sont ses collaborateurs qui sont impliqués dans tel ou tel cas de corruption. Donc, le chef de l'État ne pouvait pas dire qu'il ignorait ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qui m'a, entre autres, attiré des ennuis. Je ne pouvais pas comprendre comment nous luttons contre des groupes armés, mais que les armes venaient de FRDC. Au même moment, on parle des IDF dont Beni Boutembo, mais on trouve les mêmes IDF qui ont l'uniforme des FRDC, qui connaissent les positions des FRDC, là où se trouvent les armes, etc. C'est des cas comme ça que nous avons dénoncés, que l'on continue à faire, qui m'ont coûté l'exil forcé, alors que je ne voulais pas du tout...
Parce que vous-même, vous avez été donc poursuivi.
Poursuivi, enlevé plusieurs fois, mais aussi intenté plusieurs fois aussi en justice pour diffamation, atteinte à l'honneur du chef de l'État, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que dans ce pays, il y a de l'espoir. Parce qu'à un moment donné, j'arrivais, je n'avais plus de moyens pour financer un avocat. Et je mettais toujours mes mains en l'air pour dire, moi, je me remets entre les mains de la conscience des juges. Et il arrivait quand même, contre toutes ces pressions qu'il y avait, des juges qui m'acquittaient.
Alors, étant actuellement en exil en Belgique, ça ne vous empêche pas d'être toujours très actif, puisque vous avez fondé donc une ONG, l'Union pour le développement du Sankourou. Et avec cette ONG, vous financez un tas de projets, finalement, aussi bien un orphelinat, je crois, pour les enfants, que un soutien pour des filles mères, ainsi de suite, et d'autres projets très nombreux de développement du pays, enfin des populations sur place, de pisciculture, ainsi de suite. Racontez-nous un petit peu.
Oui, l'ONG a été créée depuis 2004-2005. Quand je suis rentré après mes études, je suis rentré au Sankourou. Le besoin était quoi? Au fait, je suis né, ça c'est encore un conflit, je suis né d'un mariage abusivement appelé mixte, alors que nous sommes les peuples attêtés là du Sankourou. Ma mère est de la forêt, mon père est de la savane. Il y a un conflit là-bas qui n'a pas de racines, des batetés là de la forêt, les batetés là de la savane. Et moi, sans le demander, je suis né comme ça. Et nous étions insultés, nous les enfants qu'on appelait 50%, comme si dans l'ADN, on pouvait calculer le pourcentage de la maman, du papa. On nous appelait des ampicillines, des médicaments à moitié rouge, moitié... parce que nous étions issus des mariages abusivement appelés mixtes. Bon, face à cette division entretenue par les acteurs politiques en mal de positionnement, moi j'ai trouvé au-delà de la radio, aller encore dans le concret, le besoin se faisait sentir. C'est jusqu'au moment où je vous parle, il y a des morts au Sankourou à cause des acteurs politiques. Moi j'ai créé l'Union pour le développement du Sankourou. Je voulais parler d'abord de l'unité, de la solidarité, de l'acceptation de l'autre pour que nous puissions développer notre province qui est totalement enclavée mais qui ne pouvait pas l'être parce qu'il y a des potentialités pour développer ce coin-là. C'est ainsi que nous avons commencé à l'époque avec l'orphelinat. Je parlais des projets avec Caritas et UNICEF. Nous avons fait la relance agricole avec le système des Nations Unies et les FAO. Nous avons fait la route avec UNOPS et le PNUD. Et nous avons énormément travaillé même pour l'alphabétisation. Il faut savoir que chez nous, on a un mariage, mais les femmes ne savent pas qu'il faut enregistrer ce mariage devant l'officier de l'État civil. Que lorsque le mari décède ou il y a un divorce, la femme perd tout parce qu'elle ne connaît pas ses droits. Donc nous avons aussi travaillé pour que cette femme sache lire, parce que quand elle sait lire, elle sait découvrir les informations qu'il y a dans un livre qui s'appelle le Code de la famille. Et qu'après, elle peut revendiquer ses droits. Et qu'elle peut même fiancer, quand elle veut se marier, dire « Moi, mon mariage, je voudrais choisir tel régime. » Communauté de biens, séparation de biens. Donc, mon ONG, accompagné de ma radio aujourd'hui dans les cendres, était des outils à la fois pour le développement, mais aussi pour l'unité et même la formation des consciences de mes compatriotes qui sont au Sankourou.
Mais vous disiez qu'il y avait ces préjugés entre deux ethnies. C'est quand même quelque chose qui est toujours très répandu, pas seulement dans votre région, mais un petit peu partout, bien au-delà aussi dans d'autres pays. Vous avez l'impression qu'on raisonne encore trop en termes d'ethnie, d'appartenance. Je veux dire, on peut être fier de là où on vient, bien entendu,
oui,
mais pas que ça devienne une arme contre les autres qu'on se considère.
Malheureusement, c'est le cas. Et malheureusement, quoi. Effectivement, en termes de concurrence, on utilise ça en politique comme outil de campagne électorale. Or, au Sankourou, pour les Batetés là qui se battent, ils sont tous issus des ancêtres très communs, Njovungando et Watambolo. Donc, les grands-pères qui nous ont mis au monde ne sont pas lointains. Nous parlons le même dialecte. Même ceux qui parlent le Dionga, on se comprend. Les Bambo, les Balanga, on se comprend. Les Bakuchu, les Bahindo, on se comprend. Les Bachol, on se comprend. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise ça comme un moyen discriminatoire, alors qu'on peut utiliser ça comme une richesse. D'ailleurs, lorsque les accents se diffèrent, lorsqu'on parle, vous sentez la beauté de ce dialecte-là. Malheureusement, les acteurs politiques de chez nous ont été créés, je ne sais pas avec quelle matière, qui ne se servent que de ça. Et ce sont des millionnaires, ils ont énormément des appartements à Bruxelles, ici en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, mais ils ne font rien. Est-ce que vous savez qu'au Sankourou, Mireille Drone, est-ce que vous savez qu'au Sankourou, lorsque quelqu'un meurt, mais on le lit dans un vélo avec quelqu'un pour l'amener à 150 km parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Mais ça coûte quoi une ambulance? Ça coûte combien? Pourquoi est-ce que l'hôpital de Lodja, de Kolé, de Lomela, de Lusambo, de Katako, de Lubef, ces hôpitaux-là ont toujours le visage des années 60? Pourquoi? Est-ce que le problème, c'est les Allemands, ce blanc-là, le Belge? Parce que nous disons toujours les impérialistes. Oui. Est-ce que ce sont ces impérialistes qui nous empêchent de construire des nouveaux hôpitaux, de nouvelles écoles? Est-ce que c'est l'homme blanc qui nous empêche de nous développer? Moi, je crois qu'il y a plus la colonisation de noir sur le noir qui semble être pire que la colonisation du blanc sur le noir. Même s'il ne faut pas nier le fait qu'il y a eu beaucoup d'abus. Mais des millions de morts aujourd'hui, nous pouvons les éviter. Mais ceux qui en sont les auteurs, même s'il y a des ficelles pour des multinationales qui ont besoin des minéraux, etc. Mais les exécutants, c'est nous-mêmes qui tuons nos propres compatriotes. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand un journaliste commence à parler des choses comme ça, il est bon pour l'abattoir.
Alors justement, Timothée, on a un nouveau président qui est Félix Tshisekedi, qui a vécu aussi à l'extérieur. Est-ce que ça suscite pour vous des espoirs? Vous pensez qu'il peut y avoir un réel changement? Parce que c'est ce à quoi aspiraient tous les Congolais, c'est ce qu'on a entendu. Peu importe, le principal, c'est que Kabila parte. On veut un changement. Quels sont aujourd'hui vos espoirs avec ce nouveau président?
Effectivement, je vais être très clair sur cette question-là. Mais avant, il faut dire que les élections, les résultats qui ont été proclamés ne sont pas ceux qui reflètent la vérité des urnes. Et la jurisprudence me dit qu'en Afrique, lorsqu'un opposant court derrière la victoire, le camp de Jean Ping est très récent pour l'illustrer, Morgan Tsvangirai au Kenya et Raila Odinga. Donc, la vérité des urnes, je ne vois pas par quelle voie elle va rebondir. Je reviens aux espoirs que susciterait le président Tshisekedi. Tout dépend de l'attitude du président Tshisekedi. Parce que Joseph Kabila n'a pas quitté le pouvoir par bon sens. Il ne l'a pas fait de bon gré. Il a été contraint. Il a versé des sangs des Congolais. Vous parlez des fosses communes. Il a créé des tragédies que Tshisekedi et les institutions nationales ne peuvent pas lui excuser parce que ça relève même des juridictions internationales. C'est des crimes qui ont été commis à RDC qui s'est commis jusqu'au même, au moment où je vous parle. C'est des crimes contre l'humanité. C'est l'humanité qui est choquée. Donc Tshisekedi doit aujourd'hui donner le signal. Soit il va protéger Joseph Kabila, et dans ce cas-là, les Congolais prendront toutes les responsabilités, soit que le moment venu, et là c'est un conseil que je lance au président de la République, qu'il y ait pratiquement la liberté d'expression, qu'il fasse retourner tous les opposants, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Fayoulou, qu'il rentre au pays, il n'est pas interdit, mais je dis qu'il rentre en homme libre, qu'il fasse ses activités comme un opposant, mais qu'en même temps, le président Tshisekedi prenne réellement le courage, parce que le lion est entré dans sa maison. Les lions qui déciment nos populations. Alors maintenant, il a deux réactions. Soit qu'il va s'allier à ces lions-là, sachant que ces lions ne lui portent pas au cœur. Il va commencer à se défendre et le manger le moment venu. Ou soit, il va nous livrer ces lions. Je veux dire, pas nous livrer pour que nous puissions tuer Kabila. Non, il doit répondre devant des cours et tribunaux. Donc oui, il y a espoir si le président Tshisekedi va prendre ses responsabilités. Mais un dernier conseil que je donne au président Tshisekedi, ça sera sa victoire de restaurer un état de droit. On ne va pas construire ce pays sous fond de crise et de mensonges. Il faudrait effectivement qu'il puisse prendre ses responsabilités et restaurer la justice. Un deuxième élément, le domaine de souveraineté qui revienne au pouvoir régalien du chef de l'État, dont la défense, l'intérieur, la justice, la communication, les finances, il ne doit pas céder à Joseph Kabila, peu importe l'homme qui lui place comme Premier ministre. Parce que ce sont des domaines de souveraineté, et la souveraineté, celui qui l'incarne aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Et un dernier mot que je dirais dans ce sens-là, Joseph Kabila a eu tout pour réussir, mais il n'avait pas la mission de réussir dans ce pays. Et donc le président Tshisekedi a tout intérêt de savoir que dans ce pays-là, celui qui sera le plus grand gagnant, si aujourd'hui l'état de droit se remet en surface, que tout le monde se met devant des cours et tribunaux, ce n'est pas la chasse à l'homme. Des millions de victimes. Comment est-ce que nous allons construire un pays alors que des gens pleurent, les Rossi Mukendi sont morts? Moi, j'ai toujours des photos dans mon bureau, à la maison, des jeunes dont l'avenir était prometteur, mais qui ont été tués, tout simplement parce qu'ils ont dit, monsieur le président Kabila, vous ne pouvez pas vous présenter au troisième mandat. Et donc, Kabila a fabriqué une majorité. Il faut dire que c'était un dégagisme total, ces élections. Donc, on ne pouvait pas expliquer qu'un Congolais qui va sanctionner Kabila aille voter son député. Aucune explication. C'était de la manœuvre. Mais nous pouvons profiter de la présence de Tshisekedi à la tête de l'État pour le soutenir, lui dire, monsieur le président, vous êtes là, peu importe la manière où vous êtes arrivé. Mais vous êtes, vous, capitaine d'un bateau où il y a des pirates, mais vous êtes capitaine d'un bateau qui a plus de 80 millions de Congolais. Mmh. Soit qu'il choisit de se rallier aux pirates, ou il tiendra compte, lui qui est l'héritier de Tshisekedi, aussi biologique que politique, pour dire, moi j'ai une responsabilité, j'ai un peuple, moi je vais conduire ce peuple parce que l'Afrique, il y a d'autres défis qui ne sont pas que Congolais. Vous savez que l'assèchement du lac Tchad, le Sahara qui descend, plus de 40 millions de compatriotes africains sont en train de descendre vers l'Afrique centrale parce qu'ils n'ont plus de pâturage, parce qu'ils n'ont plus rien à vivre au nord. Donc nous devons anticiper politiquement pour dire, nous mettons des institutions crédibles au Congo, le Congo est le moteur de tout. Donc Tshisekedi suscite l'espoir, mais Tshisekedi risque de décevoir.
Mais j'allais dire, est-ce que vous pensez qu'il a des coups des franges, sachant que l'Assemblée est acquise au parti de Kabila et que Joseph Kabila a encore toujours un énorme pouvoir aussi économique, ainsi de suite. Est-ce que vraiment, Félix Tshisekedi, on dit aussi qu'il a fait un deal, vous en parliez tout à l'heure, est-ce que vraiment il a les coups des franges pour pouvoir agir?
Tout dépend de la volonté politique. Il a tous les instruments comme chef de l'État à un moment donné. De toute façon, d'abord et avant tout, ces gens-là du FCC, Kabila et sa bande, n'ont pas leur place dans les institutions de la RDC. Ils les ont fabriqués. Deuxièmement, ce sont des gens qui doivent avoir des mandats d'arrêt internationaux parce qu'ils sont cités dans différents cas de détournement, des crimes, etc. Donc, le président Tshisekedi, je ne lui donne pas des astuces ici, les mandats, il doit intéresser la Cour pénale internationale, les institutions de justice internationale, pour qu'au moment où nous voulons restaurer la justice, ces institutions seront là. La majorité qu'il y a au Parlement lui-même a dit qu'il va déboulonner ces gens-là. Parce qu'un ministre qui n'obtempère pas la vision du chef de l'État, il doit être mis de côté, peu importe son appartenance politique. Donc, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée et provoquer même des élections anticipées. Il a beaucoup d'instruments et au même moment, il faut dire qu'il faut désarmer le président Kabila. Il a toute une armée à Kinkakati chez lui. C'est un État. En 2007-2008, Joseph Kabila a désarmé Jean-Pierre Bemba. Il l'a envoyé à La Haye. Il s'est arrangé de l'autre côté avec Moreno Ocampo. Il y avait un mandat d'arrêt international. Bemba ne l'a pas su. Il est arrivé là-bas. Il est en prison. Donc le président Tshisekedi aujourd'hui est l'espoir de toute une génération. C'est quelqu'un qui a quand même grandi en Europe. Il a des valeurs républicaines, élu des PSC. Son parti politique a toujours lutté pour l'avènement d'un état de droit. Aujourd'hui, Tshisekedi a, malgré les marges de manœuvre qui lui sont très réduites, il a quand même la signature et il a l'appui de l'Union africaine. Il peut avoir l'appui de la région, mais plus l'appui de l'ensemble du peuple congolais. Parce que nous allons nous en charger avec lui pour chasser ces gens-là qui sont minoritaires au Parlement. Vous pouvez vous imaginer que la femme du chef de l'État a 40 entreprises, les petits frères du chef de l'État qui n'a été dans aucun business se retrouvent milliardaires. Comment on peut s'expliquer tout ça? Parce que Kabila sait fabriquer des lois pour lui. Et à la CENI, il ne faut pas oublier que la CENI qui va arriver va tenir compte de la configuration de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le FCC va être majoritaire au niveau de la CENI. Il faut que les Congolais sachent. Et cela, c'est un piège. Donc, Kabila sait fabriquer des lois. Ces lois-là, nous les mettrons de côté. Voyez Lambert Mende, aujourd'hui, interdit, lui, de venir en Europe. Interdit chez nous, on s'en court par la population. Le verdict, il est là. Donc, nous soutenons le président de la République, Félix Tshisekedi, pour autant qu'il sera loyal, fidèle et tourné vers le peuple congolais.
Et alors, Timothée, quels sont maintenant vos projets? Vous envisagez éventuellement un retour au pays?
Oui, effectivement, je suis ici en train de finir mon cursus académique à l'Université catholique de Louvain, où je suis en coopération, prévention, résolution des conflits. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai choisi les conflits comme journaliste et internationaliste maintenant. Mais je suis très attaché au Congo et au Sankoro en particulier pour entrer. Et mon plus grand rêve, c'est de restaurer ma radio Sankoro Liberté. Peut-être que j'appellerai Radio Contact, Bonne, Deutsche Welle, Mode Sankoro, et l'alimenter au lieu du groupe électrogène. J'ai commencé à avoir des généreux qui nous donnent un panneau solaire, un ordinateur, un micro pour que nous puissions ressusciter cette radio. Mais au même moment aussi, créer une très 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 grande salle ou un centre informatique du Sankoro où nous pourrions gratuitement former nos jeunes pour l'économie numérique, pour le monde numérique qui est aujourd'hui la toile d'araignée du monde entier. Donc les projets sont ceux-là et avec ensemble l'UDES, Union pour le développement du Sankoro. C'est cela mes projets et je suis ouvert aussi pour des petites conférences pour sensibiliser les cœurs généreux pour des petits financements à gauche à droite.
Très bien. On espère que votre appel sera entendu alors. Merci beaucoup pour ce plaidoyer, Timothée Tshambo Chucha. Merci beaucoup d'être passé chez nous dans nos studios de la Deutsche Welle. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, qu'on aura l'occasion encore de s'entretenir. Et puis surtout, beaucoup de courage pour tous vos projets, beaucoup de succès pour les populations justement que vous aidez, aussi bien les enfants défavorisés, les filles mères, ainsi de suite, dans vos projets que vous continuez contre vents et marées.
C'est moi qui vous remercie, Mireille Drone. Merci
et
infiniment.
À bientôt.
À très bientôt.
Voilà, n'hésitez pas à réagir à cette émission ou à me suggérer un thème qui retient votre attention. Envoyez-moi par exemple un mail, mon adresse c'est mireille.drone@dw.com. Je vous rappelle que pour communiquer avec nous via WhatsApp, vous pouvez vous inscrire gratuitement en tapant dw.com/whatsapp. Vous recevrez en plus nos informations. Notez enfin que vous pouvez retrouver cette émission comme tous les programmes du service en français de la Deutsche Welle sur notre site internet, notre adresse dw.com/français-sans-cédille. À très bientôt de vos nouvelles. En attendant, bonne Pâques à tous ceux qui fêtent et excellent week-end à tous. Au revoir. Oh.